Daniel au chapitre 2. Rodrigue, tu peux éteindre les lumières là, devant. Merci. Daniel, le livre de Daniel, au chapitre 2, je vais lire au verset 10, hein, on ne peut pas tout lire, mais le contexte, c'est que le roi Nebuchadnezzar de Babylone a reçu une vision, mais il ne voulait pas dire le contenu de la vision. Et les magiciens devaient trouver eux-mêmes et lui donner l'interprétation. Et donc il dit au verset 10 que l'entourage du roi qui puisse dire ce que tu demandes, que demande le roi. C'est pourquoi aucun roi, grand et puissant, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, d'aucun astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne d'autre qui puisse le dire au roi, sinon les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les êtres charnels. Et on va sauter au verset 20. C'est Daniel qui parle. Il prit la parole au verset 20 et il dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue pour la sagesse et la force que tu m'as donnée, car tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, et tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. » Et on va poursuivre au verset 30, où Daniel révèle ce mystère au roi. « Si ce mystère m'a été révélé, ce n'est pas qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu as eu une vision, celle d'une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. » Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient de bronze et ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile et de la statue les réduisit en poussière. Alors le fer et l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le rêve. Nous voyons là Daniel, qui est aussi un type de Jésus dans l'Ancien Testament, qui nous montre qu'on peut, dans ce monde présent, être un instrument pour les rois de cette terre, pour révéler, non pas deviner, non pas déduire de quoi que ce soit, mais révéler ce que Dieu pense sur la gouvernance, sur l'histoire, sur tout ce qui se passe dans le monde. Je sais que beaucoup d'entre vous, maintenant vous avez Internet, qui n'a pas Internet? Levez la main, il n'y a personne. Voilà, donc vous consultez tous Internet, bon, c'est une bibliothèque mondiale maintenant, donc on peut tout consulter. Ceci étant, il faut une certaine connaissance pour consulter des choses et pour en tirer le meilleur parti, donc ce n'est pas évident. Et ce matin, je voudrais vous donner une perspective un petit peu de ce que représente cette statue. Je ne prétends pas vous donner l'absolu de cette révélation, mais en tout cas de ce que moi je pense qu'elle représente, en sachant qu'on peut toujours tout tourner dans beaucoup de sens différents. mais je voudrais en rester à l'essentiel, en relation d'ailleurs avec les messages précédents que je vous ai apportés sur les systèmes de ce monde dans lequel nous sommes. Et nous allons revoir un petit peu ça avant d'arriver à la compréhension de ce rêve concernant la statue, concernant les royaumes de cette terre jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour de Jésus. Alors j'ai remis ici la table des peuples. Alors c'est quoi la table des peuples? En fait, c'est cette table-là qui a été créée, je ne sais plus à quelle époque, mais en fait elle est très très vieille, qui est une table, qui est une grille de lecture, qui a été une grille de lecture jusqu'au 19e siècle. Pourquoi 19e? Parce que le 19e siècle, c'était le siècle de la science. On pensait que la science allait résoudre tous les problèmes, et que le 20e siècle qui a suivi désenchantait les gens, parce que la science, eh bien, elle a produit les canons qui ont détruit en masse avec les deux guerres mondiales. Ce qui fait qu'en mai 68, dont j'étais à Paris, avec Isabelle d'ailleurs aussi, était là-bas à cette époque-là, eh bien, on se tapait dessus avec les pavés qu'on déracinait des rues, parce que les jeunes en avaient marre de cet autoritarisme, de ce qu'on leur imposait, que la tradition leur impose. Ils veulent réfléchir par eux-mêmes et réfléchir le monde. Voilà. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les 68ards sont souvent aux manettes maintenant de la finance et autres, et ils ne font pas forcément mieux que leurs aînés. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, cette table des peuples a permis d'avoir une grille de lecture biblique à partir de la révélation. Et au 19e siècle, on a dit non, tout ça, c'est des histoires. C'est-à-dire, la Bible, c'est des mythes. C'est quelque chose qu'on raconte, voilà, pour donner un sens à la vie, pour des symbolismes, etc. Mais moi, je crois que la Bible est vraie. Je pense que la Bible, en tout cas, ce qu'on a des récits bibliques, c'est quelque chose qui est arrivé, qui est une histoire. Si je ne le crois pas, ça veut dire que Jésus est aussi un mythe, pas une histoire. On voit que Jésus, il est venu dans ce monde, il s'est incarné, il a traité la question du péché à la croix, et il est ressuscité. Donc c'est des choses qui sont vraies. Il y en a qui croient que c'est des mythes. Vous viendrez me voir à la fin du culte, on en parlera. Non, le christianisme est vrai. Par contre, les religions, ce sont des mythes. Et cette table des peuples renvoie à trois sortes de croyances, à trois sortes de spiritualité. Nous avons là-haut, bon, la lumière est pas, nous permet pas de voir ces trois personnages. C'est une représentation des trois fils de Noé, parce que au moment de Noé, il y a eu le déluge. Donc l'humanité a recommencé à zéro, quelque part, avec la famille de Noé. Et Noé a eu trois fils, Sem, Cham ou Cam et Japhet. Donc Sem est représenté ici, ici Cham et ici Japhet. Alors vous voyez que l'interprétation de Sem, c'est qu'il représente l'Asie, enfin le Moyen-Orient, l'Asie, Cham l'Afrique et Japhet l'Europe. Pourquoi? Parce que ces trois fils, bien sûr, se sont partagés le monde de l'époque, hein, il y avait personne, donc voilà. Ils ont commencé à peupler le monde. Et Sem est resté, ce qu'aujourd'hui c'est l'Irak et l'Iran, la Perse, etc. Donc il restait sur l'Euphrate, entre Babylone et puis la Perse. Donc Sem, c'est les Sémites, dont est sorti Abraham. Abraham est un Sémite. Il est sorti d'Ur en Chaldée. Chaldée, c'est Ur, pardon, c'est en dessous de l'Irak, hein, vers le bas. Et il est sorti d'Ur en Chaldée, et Dieu l'a envoyé en Canaan, qui était investi par les Chamites. Cham a occupé l'Égypte, l'Éthiopie. Et également Canaan. Canaan, c'était un élément qui appartenait à Cham. Le reste, c'était sémite. Et Japhet, un des fils de Noé, s'est installé dans les îles méditerranéennes, en particulier la Grèce, la Crète, etc. Voilà l'histoire du début de la civilisation. Or, comme dans toute civilisation, on se pose des questions sur pourquoi on est là. C'est la question de base que l'homme se pose. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je vais devenir? C'est des questions légitimes. Que les animaux ne se posent pas. C'est la différence entre l'homme et l'animal. L'homme est conscient de son existence. L'homme, l'animal, il vit de manière biologique. Ce pourquoi il a été programmé avec des sentiments. Bon, il sent des choses, voilà, mais il ne peut pas se poser la question de Dieu et de d'où il vient et où il va. Donc la table des peuples, qui est basée sur la révélation des Écritures, montre que le premier peuple là qui est en haut, là, le Sem, donc c'est les Sémites. Ici, c'est les Chamites et les Japhites, si vous voulez. Donc les Sémites qui peuplaient, donc ensuite après ils se sont agrandis bien sûr à partir de Sem, ils avaient des enfants, etc. Ils ont peuplé cette partie-là de la planète qui a une particularité. Voyez-vous, on peut toujours expliquer cette explication du monde par rapport à là où on est. La particularité de cet endroit, c'est un endroit où on voit les étoiles de manière extraordinaire. C'est un peu désertique et tout ça. Et ils étaient fascinés par l'univers, par le cosmos, par les étoiles. On parlait tout à l'heure des étoiles à Abraham. Dieu lui a montré les étoiles, vous voyez, ça veut dire que c'était visible. Et Dieu lui a dit, tu seras aussi nombreux que les étoiles. Mais les étoiles ont fasciné les Sémites. Et comme ils voulaient donner une explication au fait qu'ils étaient sur la Terre, etc., ils ont tout naturellement imaginé que ces étoiles, eh bien, conduisaient leur destin, leur existence. Au départ, c'était de l'astronomie. Vous savez que les mages d'Orient, qui sont venus apporter leur offrande à Jésus, sont venus de cet endroit-là et ont été conduits par une étoile. Donc, vous voyez, tout ça, c'est l'univers étoilé, avec bien sûr le soleil, la lune, mais aussi toutes les étoiles, qui ont conduit à croire, à chercher une explication de la divinité dans les étoiles. Donc de l'astronomie, on est passé à l'astrologie. Et du coup, même la famille d'Abraham, ils adoraient la lune, les étoiles. C'est pour ça que sur l'islam, vous avez la lune qui est sur le drapeau, parce qu'ils sont héritiers des Sémites. Ils croyaient effectivement que ces étoiles, et ils cherchaient à donner des noms des étoiles qui sont plutôt prédominantes par leur apparence. Donc bien sûr, la lune et le soleil sont prédominants dans leur capacité d'éclairer. Mais après, dans les étoiles, c'est la planète Vénus qui est apparue comme étant la plus l'étoile du berger, qu'on voit le matin, le soir, même le midi, etc. Et donc toutes ces étoiles ont donné lieu à des croyances de la destinée humaine et conduite par les dieux qui habitent ces étoiles. Voilà l'origine de la croyance. Et cette astrologie a donné une science qu'on appelle la science de la divination. La divination, c'est effectivement le fait que des prêtres qui sont exercés à l'astrologie peuvent dire ce qui va se passer. Et vous voyez, là, Nebuchadnezzar, qui habitait en Babylonie, il s'est adressé à ces mages qui étaient censés deviner ce qu'il avait reçu de la part de Dieu. Mais que ces mages ne pouvaient pas déceler parce que ça venait de Dieu. Vous voyez, entre Satan et Dieu, il y a une frontière inséparable. Satan ne peut pas aller dans ce sens-là. Mais si nous touchons tout ce qui est divination, eh bien, nous donnons des droits à l'ennemi et nous sommes sous son contrôle. Et c'est ça le principe de l'occultisme. Donc il faut jamais, jamais, jamais toucher à ça. Mais ces peuples étaient, ils connaissaient pas le vrai Dieu. Abraham a commencé à connaître Dieu parce que Dieu et au lieu de se confier dans ses étoiles, il s'est confié dans la parole de Dieu qu'il a entendue, dans l'appel de Dieu. Dans cette croyance, la divination, il y a des lieux sacrés. Chez les Sémites, ils ne choisissaient pas un lieu où ils érigeaient un temple, un palais, princier ou autre, sans des devins. Ils appelaient le prêtre et disaient, ils cherchaient une augure, que ce soit dans le foie ou dans les oiseaux, pour déterminer un lieu. Cette divination a continué, d'ailleurs, dans l'Église catholique, puisque même ici, ce lieu était choisi par les augures pour s'installer ici, voyez, et en général, c'était le prêtre qui était là pour aider les autorités politiques pour choisir les lieux. Donc la divination existe encore, et elle reprend de la poil de la bête. La déesse majeure qui est utilisée pour la divination, c'est Ishtar ou Astarté. Astarté chez les Canaéens, hein. Et Ishtar, c'est la planète Vénus, hein, qui dirige les humains, la plus brillante. Et je vous signale que c'est une déesse féminine, et tout est basé sur la féminité, parce qu'on croyait que la femme qui enfante apporte la vie. Et d'ailleurs, Adam a appelé sa femme Ève, la mère de tous les vivants, alors que Dieu ne l'a pas appelée Ève, il l'a appelée sa femme. Mais le nom donné Ève, c'est déjà une tendance à donner un pouvoir à une personne. Le peuple fondé en Égypte, c'est Cham, en Égypte, Éthiopie, était fasciné par un autre phénomène qui est la fertilité du Nil. C'est vrai que le Nil, il débordait en hiver, et le limon qui se déposait donnait une grande, grande fertilité avec l'aide du soleil. Cette fertilité permettait que l'Égypte était le grenier à blé de l'Orient. Et donc ils étaient fascinés par ça, et n'ayant pas d'explication scientifique à l'époque, il n'y avait pas de microscope électronique pour voir comment se passaient les semences, etc., ils cherchaient comment les dieux permettaient cette fertilité et comment la maintenir pour obtenir la faveur des dieux. Donc les Égyptiens ont aussi établi des prêtres qui permettent cette relation avec la divinité de manière à leur apporter des offrandes et d'être en faveur. Et ils ont découvert les principes de la magie et de la sorcellerie. C'est ça les principes, c'est d'avoir toujours la faveur des dieux, de ne pas les offenser, de manière à ce qu'il y ait toujours les produits de la moisson à la fin du temps. La déesse principale, c'est Isis. Isis, vous savez, le mythe Isiaque, Osiris, etc. C'est ça la base de la croyance qui déterminait la croyance de ce peuple en Égypte. Si on va du côté de Japhet, ce peuple était fasciné par la supériorité de l'homme sur l'animal grâce à son intelligence, à sa capacité de raisonner. C'est pour ça qu'ils ont élevé la raison au niveau suprême, ce qui n'est pas faux dans un certain sens par rapport à l'animal, et aussi l'urbanisation des cités, de la police, P-O-L-I-S, les cités. Comment organiser les cités? Il faut cette intelligence. Aujourd'hui, on va bientôt voter pour les nouveaux gouvernants. Vous voyez, il faut une intelligence pour conduire un pays. Et ce peuple, donc, Japhet, va se tourner vers la compréhension des choses par l'intelligence. On appelle ça de la métaphysique. Vous voyez, la physique qui explique la nature, ce qui est au-dessus, voilà comment qu'on organise les choses, comment on conduit les choses, etc. Et il pensait que l'homme était d'origine divine, ce qui n'est pas faux, puisque on sait qu'Adam et Ève ont été créés par Dieu, et on avait cette capacité de relation avec Dieu, et qu'il pouvait retourner à cette origine divine. Et ils pensaient que c'est par la raison qu'on pouvait y arriver. Ce qui fait qu'ils ont établi une déesse aussi, toujours féminin, la déesse Athéna, que les Romains appelaient Minerve, et qui se trouve au sommet du fronton aujourd'hui de l'Assemblée nationale pour conduire les députés à faire les bons choix avec leur raison. En conclusion, on peut remarquer que ce sont les trois déesses qui sont vénérées, et l'ennemi joue sur le rôle du féminin pour détruire la foi véritable du croyant. Je vous parlais d'Ève tout à l'heure, qui s'appelle mère de tous les vivants, hein, comme si Ève donnait la vie à tout le monde. Et c'est Satan qui instrumentalise cette croyance pour continuer à séduire les humains, et encore aujourd'hui. Dans 1 Jean, dans la première épître de Jean, qui essaye, disons, d'ouvrir l'intelligence des croyants à ces choses, il dit la chose suivante dans 1 Jean 2,16. Il dit, on va lire le verset 15 aussi. 1 Jean dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tout ce qui est dans le monde, alors le monde, ce n'est pas la terre visible que vous voyez, c'est les systèmes qui sont mis en place, les systèmes de croyances qui sont utilisés aujourd'hui encore pour nous aider à comprendre pourquoi nous sommes là, quel est le sens de notre vie. Eh bien, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Je crois, personnellement, mais bon, ce n'est pas la seule interprétation possible, que la convoitise des yeux renvoie à tout ce qu'on peut analyser par la vue, le visible. Et entre autres, le cosmos, donc ces étoiles qui ont fasciné les sémites à travers l'astronomie et qui ont conduit les mages vers Jésus, l'étoile de Noël. Et l'astrologie, qui est de donner un pouvoir à ces étoiles, qui est un pouvoir divin, tout naturellement découle de ces dieux qui s'incarnent dans les astres et qui ont une influence sur les hommes, qui en retour doivent les servir. Ils pensaient que leur existence, c'était pour servir ces dieux. C'était ça leur existence, le sens à leur vie, c'était ça. C'était de croire que ces dieux étaient là et que eux, sur terre, ils les servaient. C'est pour ça que ils avaient établi ces rites dans leur culte. C'est Ishtar Astarté, donc la déesse qui dirige la convoitise des yeux. Abraham a été appelé dans cette croyance. Mais lui, il a écouté la parole de Dieu. C'est ce que nous faisons ce matin, nous ouvrons la parole. Dans Exode chapitre 16, nous avons la convoitise de la chair. La convoitise de la chair était les préoccupations des Égyptiens. Nous voyons que dans Exode 16, 2, il est dit que toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et contre Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent, « Que ne sommes-nous morts ?» par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeions du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim et toute cette multitude. Et dans Nombre, chapitre 11, verset 5, il dit « Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte, qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des ailes, et des os, de l'ail, des os. » Vous voyez, il y avait une bénédiction en abondance en Égypte. Hein, et donc, effectivement, les Égyptiens, ils voulaient absolument la faveur de ces dieux pour garder cette abondance de nourriture qui leur donnait un pouvoir, bien sûr, sur les autres nations. On devait venir en Égypte pour acheter tout cela. Et beaucoup de sémites venaient pour acheter, etc. Et ça leur donnait un pouvoir commercial. Les dieux égyptiens, vous remarquerez que tous les dieux égyptiens ont des têtes d'animaux. Justement parce que, ça c'est le principe de l'animisme, on croit effectivement que ces dieux sont derrière la vie biologique qui donne cette nourriture dont nous avons besoin. Et la déesse qui dirige cette convoitise de la chair, c'est Isis, la mère de toute nature. Concernant l'orgueil de la vie, le troisième élément que Jean cite, l'orgueil de la vie décrit la croyance en l'homme qui veut s'en sortir tout seul. c'est le syndrome de Caïn. Vous savez, Caïn qui a offert une offrande qui n'a pas plu à Dieu, parce que c'était le produit de son travail. Et il pensait que le produit de son travail devait plaire à Dieu. Or, Abel, qui était à l'écoute de Dieu, il a offert un agneau, qui est le fruit de la grâce de Dieu, parce qu'un agneau, il peut s'élever tout seul quand il y a de l'herbe verte à satiété. Mais il a préfiguré l'agneau que Jésus allait donner dans son Fils. Le produit de son travail, le produit de ses efforts, le produit de sa capacité à être autonome, avec sa raison de pouvoir y arriver. Ce sont ces dieux qui sont projetés par les Grecs de cette manière de voir les choses comme les hommes. C'est les hommes qui sont divinisés, c'est les héros, c'est des gens qui sont super, bien sûr, ils sont magnifiés, mais ils ont le même défaut que les hommes. Ils sont aussi jaloux, même pire. La jalousie des dieux grecs, c'est incroyable. Ils ont des qualités et des défauts. Donc vous voyez, c'est des dieux qui sont des imaginations, bien sûr, faites par la raison. La déité, la déesse, qui en est, disons, qui surveille cette raison, c'est Athéna, déesse de la raison, avec symbole de la chouette et du serpent, la gorgogne, que vous avez aussi sur beaucoup de monuments à Paris, en particulier à l'Assemblée nationale. Et les sorties du crâne de Jupiter, vous voyez, donc c'est la raison du dieu, elle est sortie et elle donne l'intelligence. Je vais en arriver au fait que ces trois civilisations, bien sûr, ont... voilà, alors la civilisation de Sem, c'est ici, parce que les couleurs ne sont pas très bien, donc elles sont là. Cham, c'est toute l'Afrique, y compris Canaan. Et Japhet, c'est l'Europe qui, effectivement, est découpée là. Ça, c'est la table des peuples, hein. J'ai rien inventé. On va en avoir arrivé à l'histoire. L'histoire est révélée au travers de ce colosse à Nebuchadnezzar, et Daniel en reçoit la révélation. Ce que je veux vous montrer, c'est comment l'histoire, qui bien sûr en civilisation, on n'a plus à trois personnes, trois frères, trois frères et trois fils. On en est maintenant combien? On approche des 10 milliards, 8 milliards de personnes. Voyez. Donc il y a eu, c'est ça non? Je ne veux pas dire de bêtises. 7,5 milliards. Bon, voilà. Donc vous voyez, on est plus que trois. Hein. Donc pendant l'histoire, il y a eu un mélange. Ça, c'est les principales croyances, mais après, il y a un mélange. Et ce mélange est pratiquement à l'infini, puisqu'aujourd'hui, on parle d'un relativisme spirituel où chacun fait sa spiritualité. Mais il n'y a qu'une révélation, je le signale. C'est la parole de Dieu. Et il y a 36 000 croyances, à partir de trois croyances de base que je vous ai apportées à partir de là, mais ensuite après il y a bien sûr ce qu'on appelle le syncrétisme. Le syncrétisme, c'est un mélange de cultes, un mélange de croyances. Ces trois types de croyances dont je vous ai parlé, divination, magie et rationalisme, la raison, se sont développées pendant un certain temps avant de se mélanger. Et la Grèce a été la civilisation par excellence, qui, au travers du langage, au travers de la raison, a permis de communiquer les autres croyances. Les autres croyances n'avaient pas cette capacité de civilisation, de parler, de se savoir. Et la Grèce a intégré la magie, elle a intégré la divination dans son rationalisme. Et ce sont les philosophes qui, dans la période entre les deux testaments, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il y a une période où Dieu n'a pas parlé, pendant 500 ans. Malachie était le dernier prophète à parler, et ensuite après c'est Jésus, Jean-Baptiste, qui est venu. Et dans cette période-là, quand Dieu ne parle pas, c'est les hommes qui parlent. Et là, ce sont les philosophes, ceux qui sont les sages, qui ont pris la parole. Et ce sont ces philosophes qui ont travaillé notre manière de penser, au travers de Pythagore, Socrate, Platon, Aristote, dans l'ordre chronologique. C'était 400 ans avant Jésus-Christ. Et plus tard, les pères de l'Église, ceux qui ont établi les doctrines de l'Église, parce que nous, on a les actes des apôtres, on a l'Église, et ensuite, après, il y a les pères de l'Église, Augustin, etc. Ils se sont appuyés sur ces philosophes qui leur donnaient des outils pour d'explication, de langage. Vous voyez. Ils ont rejeté, bien sûr, leurs croyances, mais quelque part, il y a des choses qui ont passé. C'est pour ça que la philosophie, quand elle n'est pas épurée, et c'est difficile de l'épurer totalement, eh bien, elle transmet, véhicule ces croyances dont je vous ai parlé. Augustin, saint Augustin, qui est même enseigné à Sciences Po, pour sa capacité d'avoir pu imaginer, y compris la gouvernance, le gouvernement, etc., qui a écrit une somme théologique énorme, utilisait Platon, philosophe Platon. Thomas d'Aquin, plus tard, où toute l'Église catholique est basée sur Thomas d'Aquin, dans Foi et raison, eh bien, il utilise Aristote. Il s'appuie sur Aristote, qui est plus rationnel encore, qui est plus rationnel que Platon. Donc, vous voyez, l'Église chrétienne a subi des mélanges. Or, si vous voyez, dans l'Ancien Testament, Dieu a dit au peuple d'Israël, au travers de choses très concrètes, hein, les habits par exemple, qu'il n'y ait pas de mélange, qu'il y ait du tissu où il n'y a pas de laine qui est mélangée à autre. La notion de mélange était quelque chose qui était une abomination pour Dieu parce qu'il savait que n'importe quel mélange d'une croyance avec la révélation allait amener à l'apostasie en finale, mais en tout cas allait emmener le peuple de Dieu dans la déviance. Or, nous faisons constamment des mélanges. Et la difficulté du chrétien et de l'Église en général, c'est de ne pas faire de mélange. Et nous allons voir la statue de Daniel qui montre ce mélange. Tout d'abord, si nous considérons la statue du roi Nebuchadnezzar, qui explique la succession des royaumes terrestres et qui explique l'histoire humaine en rapport avec les types de croyances, nous voyons qu'autant de la déportation à Babylone, donc ici vous avez Babylone, hein, et à cette époque-là, donc vous voyez, l'histoire est racontée à partir de Babylone. Donc vous voyez, ça descend bien sûr, Sem, Cham et Japhet, ça fait un bout de temps qu'ils ont vécu. Donc Babylone, c'est l'endroit où le peuple d'Israël était déporté parce qu'il n'obéissait plus à la parole de Dieu. Il a fait des mélanges avec l'Égypte, entre autres. Jérémie, etc., a été lapidé à cause de ça, parce qu'il a dit « n'allez pas en Égypte, parce que Dieu va vous garder, même si vous avez péché, il vous impute ce péché, donc il veut vous corriger, mais n'allez pas ». Ils sont allés quand même. Bon, du coup, aussi bien Juda qu'Israël sont partis à Babylone. Et à Babylone, qu'est-ce qui s'est passé? Tout naturellement, ils ont fait un mélange. L'astrologie, etc. Et ça a créé la cabale juive. Aujourd'hui, la cabale juive, c'est issu de ce mélange de divination à l'intérieur même. Alors ça, vous avez ça dans Paul qui dit que méfiez-vous de ces faux prophètes qui enseignent des légendes et des généalogies sans fin. Les généalogies sans fin, si vous voyez les étoiles du ciel, qu'on ne peut même pas compter, ben, tous ces dieux, effectivement, hein, qui influencent, vous n'avez pas fini, hein, puisqu'on continue à découvrir des étoiles. Donc c'est sans fin. Daniel a vécu à la fin de cette déportation, puisqu'il a vu Cyrus, le Mède, hein, qui est arrivé. Cyrus, ici, qui est arrivé, c'est un Perse, hein, un Médo-Perse. Donc, il est arrivé, parce que ça, c'est la chronologie, il est arrivé vers ici. Okay, donc, il a connu encore Babylone, et il a connu l'arrivée du roi Cyrus, qui lui a permis de rentrer en Israël pour reconstruire, enfin, pour voilà, voir le peuple et préparer la reconstruction, le retour d'Israël. Les chefs du peuple juif, au temps de Jésus, en particulier les Sadducéens. Vous savez, les Sadducéens, il y avait les Sadducéens et les Pharisiens. Les Pharisiens, vous savez qu'ils étaient à cheval sur la loi. Les Sadducéens également, mais eux, c'était des aristocrates de pharisiens qui étaient censés garder le temple. C'était les descendants de Sadoc, qui lui-même était le successeur d'Aaron. Aaron, le temps de David, c'est Sadoc. Donc les Sadducéens, c'était les gardiens du temple. Donc c'est eux les chefs au-dessus des pharisiens. Et eux, ils étaient dans la pensée grecque, puisqu'ils ne croyaient même pas à la résurrection. Paul a utilisé cet artifice pour qu'ils se disputent entre les pharisiens et les sadducéens, parce qu'ils ne croyaient pas du tout à la résurrection. C'est tout à fait la pensée grecque de la raison dont on parlait tout à l'heure. Donc vous voyez, c'était déjà présent au temps de Jésus. Un mélange. C'est pourquoi dans les épîtres de Paul, de Pierre, de Jean, on peut comprendre que certains passages quand on connaît ces enseignements mélangés, dont l'Église a failli ne pas s'en sortir. À quelque chose près, nous ne serions pas les descendants des chrétiens authentiques si Dieu n'était pas intervenu pour nous garder, tellement ces mélanges ont été pratiqués. Ce qu'on appelle le gnosticisme, gnose ça veut dire connaissance, connaissance secrète, qui est un paganisme qui est adapté à un discours chrétien. La déesse parce qu'il y a à chaque fois des déesses derrière, la déesse qui est présente dans cette mélange, ça s'appelle la Sophia. Sophia, qui est la sagesse. Et c'est le dieu, ou la déesse, des philosophes. C'est eux qui cherchent la Sophia. Ils cherchent à être aidés à avoir la sagesse. Hein. Mais pas selon Dieu, mais selon ses divinités. Et la sagesse, Sophia, utilise le logos, qui est un détournement de Christ, mais qui, dans l'évangile, le prologue de Jean, est présenté comme Jésus. Sauf que ce logos-là, c'est juste un esprit. Il n'est pas incarné. Et donc, c'est l'antéchrist, puisque Jean lui-même dira, celui qui annonce que Jésus n'est pas venu en chair, c'est un antéchrist. Donc, vous voyez, on est dans dans l'élément de l'antichrist dès qu'on touche à ce mélange, à ce gnosticisme. Et c'est un blasphème du Saint-Esprit. Pourquoi le blasphème du Saint-Esprit? D'ailleurs, c'est sur le fronton de l'église qui est au bout, ce blasphème, c'est la représentation de la Sophia avec la colombe, et c'est la femme, la déesse, qui représente le Saint-Esprit, donc c'est féminin. Et la trinité de ce mélange, c'est le Père, la Mère, et le Fils. Donc la mère remplace le Saint-Esprit. À la fin de l'Empire romain, donc on va revenir sur notre histoire. Donc vous voyez, ici, là, c'est Daniel qui est dans ce truc-là, mais il prédit cela. Donc il prédit l'arrivée de la Grèce, le royaume de la Grèce, et ce royaume est arrivé avec Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, c'est un grand général grec, qui a conquis tout le monde entier de l'époque, jusqu'en Inde, jusqu'en Afghanistan, on trouve encore aujourd'hui des vestiges d'Alexandre le Grand. Il est allé en Égypte partout. Hein. Donc la Grèce, à l'époque conquérante, était l'empire qui a peuplé et qui a donné la langue, donc avec la capacité de raisonner, avec bien sûr tous ces mélanges dont je parlais tout à l'heure de croyances, qui bien sûr vont tout à fait avec. En prenant la statue de Daniel, on voit qu'on arrive à deux royaumes qui sont divisés. Et historiquement, on sait que après la Grèce, il y a eu le royaume, l'Empire romain. L'Empire romain qui a commencé à -27 ans avant la venue de Jésus. C'est Auguste qui l'a inauguré, ce royaume. Et Jésus est venu au temps des Romains. Et il a été crucifié par Jules César, Ponce Pilate, Ponce Pilate et le roi Hérode, qui l'ont crucifié ici. Et on sait que donc l'Empire romain a eu une phase particulière où le christianisme est entré comme religion d'État. C'est avec Constantin en 330. Vous voyez, en 330. 330 après Jésus-Christ, Constantin a pris le royaume, mais tout de suite après, il s'est divisé en deux. Il y a eu le royaume romain en Occident et le royaume romain en Orient. Et c'est Byzance, donc, qui est devenu le royaume romain en Orient et qui a donné cette jambe-là. Oui. Et le royaume d'Occident, il a continué ici jusqu'en 476, qui était la fin de l'Empire romain. À Byzance, ça a continué jusqu'en 1453, quand l'islam ensuite a pris le dessus à Byzance. Et donc, il y a eu la fin de l'Empire romain dans ces deux dates-là. Mais les jambes continuent. Les gens continuent. Et aujourd'hui, nous sommes héritiers de cette histoire où il y a, vous voyez bien qu'il y a une opposition entre l'Occident et l'Orient, hein, Russe, Poutine, la Chine, etc. Et ça ne s'arrêtera pas parce que c'est quelque chose qui est utilisé par le prince de ce monde, hein, pour opposer les choses. Mais la particularité de ce royaume, de ces royaumes, c'est qu'ils sont mélangés. Ils sont mélangés. Autant ici, vous avez la tête en or, ici, vous avez le bronze, ici, l'argent, le bronze, ici, vous avez l'airain, bronze, airain, et là, vous avez un mélange entre du fer, qui est fort, et de l'argile. Vous imaginez un matériau qui est composé du fer et de l'argile. Ça ne peut pas tenir. Alors, je sais que là-dessus, il y a plusieurs interprétations. Je pense personnellement que c'est lié aux sociétés de démocratie que nous avons, hein, parce qu'une société où il y a un seul personnage à la tête, on le voit avec Louis XIV, hein, c'est un absolutisme total, donc il est fort. Il est fort, il est tyrannique, mais il est fort. On peut rien faire. Hein, okay. Nos sociétés sont fragiles. Elles permettent au peuple de donner leur avis, vous serez consulté pour choisir le président de la République. Donc il y a quelque chose de fort, hein, mais cette force vient plutôt de l'économie. Aujourd'hui, vous voyez, l'Europe, elle est forte par l'économie, par le marché commun, parce que tout le monde veut les biens matériels. Donc on arrive à s'accorder là-dessus. Donc ça donne une force économique. Mais la fragilité, c'est au niveau politique. Aujourd'hui, l'Europe ne peut pas arriver à une tête politique. Et c'est tous les reproches qu'on a. Mais ce ne sera pas possible. Parce que, par nature, les démocraties ne peuvent pas arriver à s'entendre. C'est un problème de décision. Vous voyez, déjà 27, pour prendre une décision, ce n'est pas du tout évident, très loin. Et ce sera de plus en plus difficile. Donc nous sommes dans ce temps. Dans ce temps où, malgré nos gesticulations, nous ne pouvons rien faire parce que Dieu nous dit que nous devons être des chrétiens qui ne mêlons pas à tout ça. Nous voyons, nous prions pour nos dirigeants, mais l'histoire, c'est Dieu qui l'a en main. Par contre, nous devons ne pas avoir de mélange. Or, l'Église aujourd'hui a tendance à mélanger les choses. Et ça enlève notre force à nous. Et Satan, il veut que nous n'ayons plus la force de résister à ce qui va arriver. Et dans ce contexte politique, dans ce contexte, pardon, de l'histoire, bien sûr, la vision ne s'arrête pas là, puisqu'il y a une pierre qui va venir et qui va frapper et qui va le pulvériser. Et cette pierre, c'est Jésus-Christ qui va revenir, bien sûr, avec son Église pour régner. Et c'est Jésus seul qui est capable de régner sur cela. Je vais montrer les autres slides pour juste vous montrer que l'histoire, vous voyez, ici, on en est aux trois fondateurs de la civilisation. Mais Daniel, ça commence à Babylone. Ensuite, après, Cyrus, qui vient de Perse, qui ensuite après donc vient dans l'histoire, et ensuite Alexandre le Grand. En moins 27, Auguste, Constantin, qui est divisé en deux, et ici c'est l'Empire mondialisé. Pendant un certain temps, il y avait l'Empire, le Saint-Empire romain germanique, hein, qui a, lui, s'est arrêté en 1806, parce que la chrétienté occidentale a voulu imposer le christianisme par la force et par l'alliance avec l'Église. Et il y a encore des évangéliques aujourd'hui qui croient à cela. Mais rassurez-vous, ce n'est pas possible, on ne peut pas faire ce mélange. Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Jésus, il avait la capacité de ne pas être corrompu, de ne pas se corrompre dans la politique. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas donné d'exemple comme quoi nous devons prier, nous devons faire notre devoir de citoyen, mais nous ne devons pas nous mêler à chercher à savoir ou à faire des choses ou à influencer les choses. Ça nous dépasse, hein, parce que derrière, il y a les puissants. Donc ne passez pas trop de temps à toutes ces choses-là, en demande d'avance. Passez du temps à travailler votre communion avec Dieu, comme Abraham l'a fait, pour que dans ces temps troublés, toutes ces informations que vous recevez ne soient pas de nature à vous détourner de l'importance fondamentale de la piété qui est la religion de chrétienne, de la piété avec le Seigneur, dans la simplicité, et ne passez pas trop de temps à tout cela, parce que vous allez vous perdre. Là, c'est l'histoire, et là, c'est les croyances. Donc, vous voyez, la croyance, la divination, qui est toujours utilisée aujourd'hui, la magie et la sorcellerie qui viennent de cette civilisation, et la rationalisation qui viennent de Japhet. Et là, il y a eu un mélange de tout ça. Aujourd'hui, tout ça s'est mélangé et s'est utilisé dans toutes les croyances. Et la croyance juive, à l'époque, quand ils étaient en Babylonie, eh bien, ils ont créé la Kabbale, qui est un mélange de la foi juive avec toutes ces, avec tout ça dedans. Et la Kabbale, c'est effectivement... alors, c'est un blasphème, hein, dans le sens où vous ne pouvez plus trouver la vérité. Quand vous êtes dans la Kabbale, vous ne pouvez plus, parce que tout est tordu à cause des autres croyances. Et la principale déesse, c'est la Sophia, qui, elle, effectivement, détourne complètement la pensée de la connaissance de la vérité. Ensuite, après, il y a eu les philosophes, hein, qui se sont installés dans cette période-là, hein, qui ont donné les éléments pour construire ces croyances, et ça donnait lieu le gnosticisme. Le gnosticisme, c'est utilisé pour parler de ce syncrétisme entre la foi chrétienne, tout à fait au début, c'est les juifs chrétiens qui ont accepté le christianisme, mais qui tout de suite ont mélangé avec les philosophies grecques qui, elles, sont pénétrées de la divination et de la magie. Et donc, les premiers pères de l'Église ont eu cette tendance-là à faire ces mélanges, et ça donnait lieu à ce gnosticisme, contre lesquels tous les épîtres, alors je ne parle pas des évangiles, parce que Jésus a enseigné, c'est un condensé de l'enseignement de Jésus, mais les épîtres, c'était quelque chose pour garder la foi des chrétiens. Donc Pierre, Paul, Jean se sont évertués dans leurs épîtres à dire « Attention, il y a des faux prophètes qui se glissent parmi vous. » Ils utilisent des femmes, parce que c'est le féminin qui est utilisé, c'est le déesse, et pour vous corrompre. Et par exemple, 1 Timothée 2,15, je reviens toujours là-dessus, si vous ne le comprenez pas dans cette volonté de mettre en garde, vous ne comprenez pas pourquoi. Il n'est pas dit qu'il est interdit à la femme d'enseigner, mais que Paul veut dire qu'il est interdit d'enseigner ça, c'est-à-dire ce mélange qui existait à l'époque. Le christianisme d'État n'a pas arrangé les choses, puisqu'il a confirmé ces pensées-là syncrétiques, ces pensées mélangées avec le monde. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle forme de syncrétisme qui s'appelle le Nouvel Âge. Le Nouvel Âge, c'est aussi un gnosticisme qui veut toujours détourner les chrétiens, particulièrement les chrétiens fidèles, mais qui veut surtout entraîner l'ensemble du monde à laisser venir l'Antéchrist qui viendra à la fin. Mais l'Antéchrist, il est dans le monde. La Bible dit qu'il est dans le monde. Vous voyez, l'Antéchrist, c'est depuis le départ, il y a eu une volonté de mélange. Donc ne cherchons pas l'Antéchrist à droite et à gauche, ça ne sert à rien, il est là. Il est là dans ce mélange. Et Dieu nous demande de ne pas nous mélanger. Alors, bien sûr, les chrétiens ont transformé ça, il ne faut pas se mélanger avec le monde, ça n'a rien à voir. Le monde, c'est les systèmes de pensée. Les chrétiens qui se sont peut-être pas mélangés avec la famille parce que la famille est mauvaise, etc., c'est pas ça. Vous pouvez aborder n'importe qui. Jésus a abordé n'importe qui. Il n'était pas corrompu par l'extérieur. Mais il mettait en garde contre le levain des pharisiens. Le levain des pharisiens, c'est ça. C'est la pensée corrompue. Vous voyez ? La pensée qui n'est pas appuyée sur la parole de Dieu. Alors, vous voyez, il y a eu la philosophia, donc ça commençait par l'amour de la sagesse, la philosophie. Ça continuait par la pistis sophia, c'est le document, la Bible, si vous voulez, des gnostiques. Pistis, ça veut dire foi et sagesse. Vous voyez, vous, la foi est mélangée à la sagesse. On n'écarte pas la foi, mais on ramène la sagesse. Aujourd'hui, le dernier pape Ratzinger qui a écrit son encyclique, c'est « Foi et raison ». C'est vouloir garder les deux sur le même niveau. Dans le quadrilatère de Wesley, ce n'est pas même mieux. C'est la raison qui est soumise à la foi, c'est-à-dire confirme la foi. Okay, c'est tout à fait différent. Mais là, c'est foi et sagesse. Et dans le Nouvel Âge, c'est la théosophia. La théosophie a été mise en place par des gens très très poussés dans l'occulte. C'est une dame russe, aristocrate, qui en 1875 a créé la théosophie. Et aujourd'hui, c'est la théosophie. Donc vous voyez, nous, on va plus loin dans l'amour et dans l'adoration de la sagesse. On dit même que c'est la théo, c'est la sagesse de Dieu. Alors que la sagesse de Dieu, Paul le dira, hein, vous l'avez de manière remarquable dans 1 Corinthiens au chapitre 1er, qui est justement l'ouverture de Paul pour défendre la foi chrétienne, hein, contre tout ça. Et voilà ce qu'il dira. Il dit, car Christ ne m'a pas envoyé, dit au verset 17, hein, 1-17, pour annoncer l'évangile, non, il n'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage. C'est la puissance des Grecs, le langage. Afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, et les puissants de Dieu. C'est pour ça que c'est toujours la croix qui doit être pour nous le seul élément de sagesse à laquelle nous devons nous rallier. Et les puissants de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le contestataire de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas frappé la folie, de folie la sagesse du monde ? Car puisque le monde, avec sa sagesse, avec sa sophia, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Amen. Et nous avons au verset 27 cette déclaration magnifique où Dieu prend à contre-pied justement toutes les croyances humaines qui veulent se croire dans l'orgueil de pouvoir s'en sauver, se sauver tout seul. Il dit, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Dieu l'a prévu. Ce n'est pas aucune sagesse que nous pouvons connaître Dieu, mais c'est par une communion intime, dans une relation personnelle avec Dieu, en nous gardant justement de tout ce que le monde nous propose et qui nous proposera de plus en plus, ce qui veut nous séduire, hein, de plus en plus, pour intégrer à notre foi d'autres croyances. Et ça, ça va nous voiler la compréhension de l'Évangile dans toute sa gloire. Donc gardons-nous de cela. Et ici, le principe féminin de Dieu, c'est cette Sophia, c'est le principe féminin de Dieu, qui est le blasphème du Saint-Esprit. Pour ce qui me concerne, c'est ça. Le blasphème du Saint-Esprit. Parce que la femme, le féminin, prend la place du Saint-Esprit. Et la Shekinah, c'est pareil, c'est féminin. la mère, principe féminin, il est représenté par une femme à la colombe, et ici le Graal, qui est son. Et ce, ça, c'est sur le fronton de l'église qui est au bout, c'est pour ça qu'on a eu ces combats et qu'on continue à les avoir. Mais bon, c'est aussi un principe pédagogique pour nous aider à comprendre dans quel monde nous sommes et dans quelle croyance eh bien, nous sommes. Et ce monde, vous voyez, le Nouvel Âge, il intègre toutes les formes de croyances, hein, que ce soit Krishna, que ce soit Bouddha, que ce soit tout le monde. Tout le monde. Aujourd'hui, il y a un parlement des religions depuis 1993. Qui siège tous les 4 ans. Et le dernier qui a siégé à Salt Lake City en 2015 était sous l'égide d'Astarté. Et les chrétiens sont dedans pour faire une seule religion syncrétique. Voilà. Et ça, c'est une autre forme où Jésus est utilisé, instrumentalisé, pour séduire les chrétiens, pour les amener à croire que la paix viendra lorsque on fera une religion unique où toutes les religions se valent. C'est une séduction. C'est une séduction. Gardez-vous, et surtout les enfants, hein, j'ai cité 3 films en particulier qui sont remplis de cela, Star Wars, Harry Potter et bien d'autres, qui sont produits dans cette intention pour que les jeunes gens, les jeunes filles aujourd'hui, soient embarqués dans croire que la paix viendra lorsque on va tous croire, avoir tous la même croyance, alors que le seul chemin, c'est Jésus. Mais ce chemin-là est décrié, parce qu'on dit qu'il est intolérant, puisque tout le monde ne l'a pas. Voyez. Dans la sagesse du monde, il pense que tout le monde qui a le même chemin, il conduit à la paix. Et en fait, il conduit là où on sait, vers l'antichrist. Donc, soyons vigilants, gardons nos enfants de toutes ces formes d'influence. On pourra revenir dans des ateliers, dans des séminaires sur ces choses-là. Je vais juste vous mettre en garde contre le fait que l'origine des croyances, voilà où elles viennent, voilà comment elles ont vécu, voilà comment les chrétiens les ont intégrées dans leur propre système de pensée, comment ça a été transmis par l'Église officielle et comment les chrétiens aujourd'hui, en particulier évangéliques aussi, retombent dans le même piège pour mélanger le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Et donc, nous sommes dans un temps où le Seigneur veut que nous, même si nous sommes un reste qui est fidèle à la parole, amen. Que le Seigneur nous garde, et que la folie de la croix soit notre sagesse. Que la croix, qui est l'instrument par lequel nous pouvons nous repentir nos péchés, et pas une seule fois, mais à chaque fois que nous péchons, la croix est là pour nous justifier jusqu'à la fin. C'est le travail de la sanctification, et que le Seigneur nous aide à utiliser cette croix. C'est effectivement l'enseignement du torrent qui purifie, entre autres, mais que ce soit quelque chose que nous puissions intégrer dans notre vie, que la croix de Jésus soit centrale pour chacune de nos vies. Seigneur, nous te prions afin que tu nous gardes, Seigneur, de l'erreur qui est en train de se propager dans le monde, Seigneur, qui l'a toujours été, mais simplement à une échelle plus grande. Que tu nous gardes et que tu gardes nos enfants, que tu gardes nos adolescents, que tu nous gardes, Seigneur, tu vois l'ennemi qui veut arracher les enfants des parents dans les écoles, ils veulent influencer, comme c'est le cas à l'école de Porcheville et bien ailleurs, Seigneur. Tu vois cette volonté qu'il y a de conduire les chrétiens particulièrement dans des voies de travers pour leur faire accepter l'idée que le mélange est possible. Bien, Seigneur, tu as toujours haï le mélange. Et tu veux que nos cœurs soient purs devant toi. Aide-nous, Seigneur, à garder cette pureté, Seigneur, de l'Évangile, de la croix, de Jésus qui est mort et ressuscité, qui est venu en chair pour traiter la question du péché. Seigneur, que toutes ces vérités puissent nous habiter et que nous puissions conduire notre jeune génération, eh bien, dans ces voies. Nous te demandons cette grâce au nom de Jésus. Amen. Amen.